Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Washington, Camille Grodidi avec vous pour un bulletin d'information. La mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, la MISAEL, se dit prête à appuyer l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie jeudi à 5 casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Nous serions heureux de fournir toute l'assistance possible en ce qui concerne l'enquête, a déclaré Issaka Assoiré, conseiller spécial du chef de la mission de l'UA, Pierre Bouyoya. Monsieur Assoiré a condamné l'attaque et a fait également 3 blessés. Freetown, ville morte ce samedi au deuxième tour du verrouillage décrété par les autorités pour tenter d'enrayer l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Des dizaines de milliers de travailleurs de la santé font du porte-à-porte dans la capitale sierra-léonaise et le reste du pays pour expliquer aux habitants comment ils peuvent éviter de contracter le virus à Ebola et pour recenser les malades qui n'auraient pas songé à signaler leur état ou à se rendre au centre de traitement. Le président Ernest Bai Koroma a demandé à tous les Sierra Léonais de rester chez eux pendant 3 jours à partir de vendredi, expliquant dans un discours télévisé que des temps extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires. Selon l'agence Reuters, qui cite la radio d'État camerounaise, au moins 4 civils ont été tués dans le nord du Cameroun lors d'un raid transfrontalier mené par des militants présumés de Boko Haram. Les islamistes auraient lancé leur offensive jeudi soir contre le village d'Assigaxia, près de la ville de Mokolo. Les États-Unis continuent de diriger leurs amis et alliés dans le cadre de la stratégie visant à humilier et finalement détruire les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, a déclaré samedi le président Barack Obama. Le chef de l'exécutif a noté que les militants représentent une menace pour le peuple irakien, la Syrie et l'ensemble du Moyen-Orient, mais qu'abandonnés à eux-mêmes, ils pourraient également représenter une menace croissante pour les États-Unis. Une minute de sport. La Confédération africaine de football a désigné ce samedi les noms des pays qui devront abriter les éditions 2019 et 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le verdict est tombé lors d'une conférence de presse au siège de la Confédération africaine à Addis Abeba. À l'issue du vote, le Cameroun va abriter la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire va accueillir l'édition de 2021. La CAF a également décidé d'attribuer l'édition de 2023 à la Guinée. Grand Prix de Formule 1 de Singapour, c'est le Britannique Lewis Hamilton de Mercedes qui partira dimanche soir en pole position à côté de son coéquipier allemand Nico Rosberg, leader du championnat du monde. Samedi soir en qualification, Hamilton a devancé Rosberg de 7 millièmes de seconde seulement. Et en tennis, le Portugais João Sousa, tête de série numéro 6, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Metz en battant Gaël Monfils en 2-7, 7-6, 8-6, 6-2 samedi en demi-finale. Selon le premier ministre turc, 49 Turcs pris en otage en Irak par des militants de l'État islamique ont été libérés. Ahmet Davutoglu a déclaré samedi que les otages qui avaient été capturés en juin ont été libérés tôt samedi et sont bien arrivés en Turquie. Plus de 300 combattants kurdes ont traversé la frontière turque pour pénétrer en Syrie afin de défendre une région kurde attaquée par des militants de l'État islamique. Entre-temps, des djihadistes de l'EI ont menacé de tuer un autre otage, le travailleur humanitaire britannique Alan Henning, qui avait été enlevé près de la ville syrienne d'Aldana en décembre dernier.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge, avec une invitée en ligne, Karine Jabre, chef du programme sur l'égalité des genres à l'Union interparlementaire à Genève. Alors, 16 femmes présidentes de parlement se sont réunies récemment à Genève. L'objectif de la rencontre était en fait surtout de voir quels moyens peuvent être utilisés pour permettre l'émancipation économique des femmes. Et finalement, la réunion s'est arrêtée sur les violences faites aux femmes et aux filles dans certains pays, dans des pays en guerre, dans des pays où la violence armée est omniprésente. Alors, que ressort-il de cette réunion, Madame Jabre ?
L'Union interparlementaire organise une réunion annuelle des femmes présidentes de parlement. Elles sont très peu dans le monde aujourd'hui. Seulement 15% des présidences de parlement sont occupées par les femmes. Et donc cette année, nous en avions 16 qui représentaient tous les continents, c'est-à-dire Europe, Afrique, Asie et puis Amérique latine. Elles étaient là. Et pour un débat de 2 jours qui s'est focalisé effectivement sur la question de l'émancipation économique des femmes. Cela dit, au début de la réunion, les femmes ont commencé une discussion sur leur besoin d'exprimer leur voix politique en solidarité aux femmes et aux filles qui sont actuellement victimes de violences en situation de conflit. Je crois que pour elles, c'était une évidence de devoir prendre position en tant que femme et en tant que leader politique pour dénoncer ce type de violence et pousser les autorités nationales et internationales à prendre action.
Alors avant de revenir sur le sujet, pourriez-vous nous dire qui représentait l'Afrique à cette rencontre ?
Alors nous avions entre autres le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale. Voilà, c'était les principales représentantes d'Afrique. Nous avions aussi plusieurs femmes speakers, donc présidentes d'Europe, Autriche, Royaume-Uni, Lettonie, entre autres, et puis Singapour, Inde, le Chili, le Parlement centra-américain, etc.
Alors, une belle représentation tout de même de la planète, finalement. Alors, oui. Vous avez rappelé, hein, parce que c'est vrai que l'on n'en parle plus du tout, on a l'impression que c'est tombé aux oubliettes, hein, ces 273 écolières nigérianes enlevées par Boko Haram. Vous vous rappelez que ben, il ne faut pas les oublier.
Exactement, je crois que c'est le sentiment fort qui est ressorti au tout début. C'est pour ça qu'on devait parler, on commençait le débat sur l'émancipation économique et les femmes ont voulu faire une pause et dire écoutez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui et nous ne pouvons pas rester silencieux, c'est notre devoir de parler en tant que femme et présidente de parlement et il ne faut pas oublier ces filles. Ces filles, nous avons une responsabilité de défendre leurs droits et d'être leur voix. Et il ne faut pas les oublier, il ne faut pas non plus oublier leurs familles qui sont aussi dans des situations de détresse grave aussi, émotionnellement, etc. Donc je crois qu'elle voulait vraiment rappeler qu'il fallait pas baisser les bras, qu'il fallait continuer la lutte pour libérer les jeunes filles et que de manière générale, il faut assurer la protection des enfants et des jeunes filles, surtout quand elles vont à l'école et quand elles essayent de se développer personnellement par le biais de l'éducation.
Alors dans les pays hein, où notamment les femmes et les filles sont victimes de violences, hein, de divers types de violences, vous citez la Syrie, l'Irak et la RDC et la République centrafricaine.
Mm-hmm. Alors, les femmes ont souhaité aussi élargir donc un peu leur déclaration. Leur point de départ, c'était les filles qui ont été donc enlevées par Boko Haram, mm-hmm. mais elles ne pouvaient pas non plus oublier ce qui se passe actuellement donc dans plusieurs pays qui sont soumis à des conflits, soit internes ou internationaux, et rappeler que les situations de conflit ont des conséquences énormes sur donc les femmes et que les femmes sont souvent les premières victimes donc civiles de ces conflits et que ces situations de conflit accroissent leur vulnérabilité donc à la violence et à l'abus et à d'autres formes d'exploitation. C'est ce qu'on remarque dans des situations donc soit en Syrie, soit en Irak, ou en RDC, ou les républiques centrafricaines, où les femmes sont soumises au viol, au trafic d'êtres humains, au mariage forcé, soit parce qu'elles sont réfugiées dans des situations vraiment difficiles et vulnérables. Et donc, il faut augmenter donc et renforcer leur protection dans ces cadres bien particuliers.
Ces femmes parlementaires et surtout ces présidentes de parlement, elles ont une grande responsabilité en la matière et elles peuvent beaucoup.
Elle peut faire plusieurs choses. En tant que présidente de Parlement, elles sont à la tête du pouvoir législatif et une des premières réponses à l'émancipation économique des femmes, c'est d'établir un cadre juridique qui tant combattre les discriminations envers les femmes dans le domaine économique et un cadre qui aussi facilite l'accès des femmes donc à leur émancipation économique et qui combatte les discriminations. Donc il faut un cadre juridique très fort et un cadre juridique aussi qui est bien mis en œuvre et c'est le rôle aussi du Parlement d'assurer qu'il y ait des budgets pour mettre en œuvre les lois et qu'il y ait un contrôle régulier de l'efficacité et de la mise en œuvre de ces lois. Donc ça c'est vraiment un premier travail qui est vraiment au cœur du travail parlementaire et donc de la responsabilité même des présidentes. Je crois aussi que les femmes présidentes, elles ont un rôle d'exemple pour montrer, ouvrir la voie à d'autres. Elles sont dans des postes de prise de décision élevés. Elles peuvent tant faciliter le mentorat et la participation accrue des femmes tant au Parlement que dans d'autres domaines de prise de décision. Et elles ont un devoir, je crois, de parler pour les autres femmes, d'essayer de comprendre les difficultés auxquelles elles font face, de leur donner de la visibilité et aussi de trouver des solutions en partenariat avec les hommes et avec d'autres partenaires, bien évidemment.
Est-ce que vous connaissez éventuellement une présidente de Parlement qui, dans son pays, prend des décisions audacieuses et arrive à faire changer les mentalités ?
Je ne me permettrai pas d'en choisir une parmi toutes celles. Elles viennent toutes de milieux différents, politiques et économiques et sociaux. Ce qui me frappe quand je les vois, c'est leur engagement et le fait qu'elles ont dû toutes, et je dis toutes, surmonter plusieurs défis et obstacles sur leur chemin, et qu'elles l'ont fait avec grande volonté et qu'elles ont aussi le souci de leurs consoeurs et des autres femmes. Et ça, c'est quelque chose qui était présent tout au long de la réunion, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles ont vraiment conscience de leur rôle et de leur devoir envers les autres femmes. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et je crois qu'il faut de plus en plus faciliter ce genre de rencontres pour tant mettre certains enjeux sur la table, les discuter, mais aussi, encore une fois, donner de la visibilité aux questions d'inégalité entre hommes et femmes.
Pour l'émancipation économique des femmes. Est-ce que ces femmes, ou en tout cas, est-ce que l'Union interparlementaire a la possibilité de faire évoluer les choses, des financements, par exemple, pour que ces femmes aient accès à la technologie, à la formation et à l'emploi ?
Oui, mais nous travaillons avec les parlements et l'objectif du travail de l'Union interparlementaire, c'est de renforcer le travail des parlements pour qu'ils soient des institutions qui répondent effectivement aux besoins des hommes et des femmes et des concitoyens des différents pays. Donc, on ne peut pas directement financer ou apporter des financements à des entreprises ou à des initiatives menées par des femmes au niveau national. Cela dit, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient le parlement de divers pays à revoir ses lois afin de faciliter l'accès des femmes dans ces pays au crédit ou bien revoir les cadres législatifs en termes d'accès à la propriété, d'héritage, etc. afin que les femmes puissent avoir accès aux moyens de production aussi. Donc, par le biais du Parlement, on arrive effectivement à avoir un impact, j'espère, positif sur la vie de ces femmes qui veulent entreprendre et s'émanciper économiquement, mais pas malheureusement directement. ces femmes ont été très stratégiques en voulant discuter de l'émancipation économique. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez et je crois que c'était une des priorités sur laquelle on n'a pas assez focalisé lors des discussions autour des objectifs du millénaire précédent et j'espère que ce sera vraiment au cœur des prochains objectifs qui seront adoptés l'année prochaine, vraiment aux clés du développement.
Oui, parce qu'en fait, quand on parle d'émancipation économique, surtout dans beaucoup de pays en développement, c'est débloquer des financements, je vais peut-être schématiser un peu, pour que ces femmes puissent avoir accès, monter leurs petites entreprises, leurs petits business en quelque sorte.
Mais c'est bien plus que ça. Et si vous voyez la déclaration qu'elles ont adoptée, c'est pas seulement l'accès aux ressources, c'est aussi l'accès aux droits, c'est la discrimination au travail, c'est le travail non payé des femmes, le travail domestique. Avec les populations qui vieillissent de plus en plus, cette charge-là sur les femmes, elle augmente. Comment est-ce qu'on va prendre ça en compte? C'est la question de la violence au travail et c'est la question de comment concilier famille et travail aussi, qui est un des grands enjeux pour toute femme qui veut produire économiquement. Donc il y a tellement d'enjeux et la question de l'émancipation économique n'est pas juste une question pour les femmes des pays en développement, c'est aussi une question qui est très pertinente pour les femmes des pays développés.
Merci beaucoup Karine Jabre, chef du programme sur l'égalité des genres à l'Union interparlementaire et à très bientôt.
Merci beaucoup madame,
au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Parole de femme.
Au Togo, lors d'un atelier technologique destiné essentiellement aux femmes et aux filles, des jeunes étudiantes ont monté leur premier ordinateur. Notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, est allée à leur rencontre.
Au Togo, comme un peu partout sur le continent africain, le domaine des sciences de la technologie est et demeure l'apanage des hommes. La preuve, au Togo, seulement 8% des étudiantes s'inscrivent dans des facultés de sciences. Fort de ce constat, l'Américain Connor de l'Université de Lomé a organisé du 9 au 13 septembre 2014 un camp dénommé Female Tech Camp. L'objectif est d'encourager les jeunes filles à acquérir des compétences technologiques. Nadej Afoutou, responsable du Female Tech Camp.
Nous avons constaté qu'il y a très peu de filles dans les filières informatiques et la plupart d'entre elles qui s'engagent dans ce domaine font du software. Peu d'entre elles font le hardware. Donc c'est l'occasion pour nous de leur montrer qu'elles peuvent faire du hardware d'une part et aussi de leur montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à elles et également pour les aider à être des leaders d'incubateurs de technologie dans leur communauté.
C'est un cliché d'affirmer que les femmes ne peuvent pas exceller dans les sciences et technologies. Aussi bien les filles que les garçons ont les mêmes aptitudes, soutient Dr Amivi Kafui Tété Bénisson, présidente de l'Association des femmes scientifiques du Togo.
Étudier en sciences et technologies, c'est à la portée de tout le monde. Filles comme garçons, ce qu'il faut, c'est la persévérance. Il faut oser, il faut refuser les solutions de facilité, il faut de l'abnégation, il faut des efforts en continu. Et c'est un sacrifice de tous les jours. Si on donne les mêmes chances aux filles comme on donne aux garçons, il n'y a pas de problème que les filles aussi réussissent.
Une vingtaine de filles ont pris part au Female Tech Camp, au cours duquel elles ont fabriqué des ordinateurs assez particuliers. Nadej Afoutou, coordinatrice du Female Tech Camp.
L'élément spécial de ce tech camp, c'est l'ordinateur en bidon, pas bidon du tout, que le Well a conçu et qui est dénommé le WAFAT. Cet ordinateur-là montre qu'on peut à la fois allier environnement et technologie, parce que c'est faire partie des produits recyclés, tels que les déchets technologiques, les bidons, les ordinateurs qui ne servent plus à rien du tout.
Le Female Tech Camp a permis à des jeunes filles passionnées de la technologie de briser le mythe autour de la fabrication d'ordinateurs. Elles en ont fabriqué elles-mêmes.
Ils sont aussi fonctionnels que les ordinateurs sortis tout droit de l'usine. Tout aussi utiles, ils font les mêmes choses.
Avant qu'on voit l'unité centrale, c'est comme un truc qu'on ne peut pas toucher. Mais en fait, quand c'est avec un bidon, c'est ordinaire, quoi. Tout le monde peut avoir assez, tout le monde peut toucher, c'est un peu plus familier.
Cette initiative se veut une plateforme pour susciter des talents féminins dans le domaine technologique. Ceci en accord avec le thème 2014 de la journée de la femme africaine qui est « Rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une reconnaissance africaine ». Kayi Lawson pour le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique.
Qui va se soucier de nous ?
Tel est le titre d'un rapport de Watchlist sur les enfants et les conflits armés dans le nord du Nigeria. Le document relève que les salafistes soumettent garçons et filles au recrutement forcé et à d'autres formes de violence. Moki Edwin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique au Cameroun, s'est rendu dans la zone frontalière où il a recueilli des témoignages. Son reportage est relaté par Lola Akomachri.
Des milliers de Nigériens fuyant les combats continuent d'arriver au camp de Minawao, un village camerounais à 130 km du Nigeria. Selon Fred Williams de la Croix-Rouge locale, la majorité des réfugiés ont été soumis à des formes de violence.
We have had cases of rape. We have had cases of assault.
Nous avons eu des cas de viol, d'agression par exemple, des enfants de 9-10 ans violés, des femmes victimes de violences extrêmes. C'est désastreux. Les réfugiés ont perdu tous les moyens de subsistance. Il n'y a pas d'autres moyens de survie. Ils dépendent maintenant de la bonne volonté des communautés d'accueil, éventuellement du gouvernement du pays hôte. C'est vraiment déplorable. Victoire Nukiru, enseignante bénévole au diocèse de Maïdougouri, dit qu'elle s'est enfuie de son domicile après l'enlèvement de ses 5 enfants par des membres présumés de Boko Haram.
My son, let the world hear this.
Mon fils, et que le monde entende bien ceci, mes 2 filles et 3 fils sont dans les mains de ces voyous. Pour ajouter à mes malheurs, ils nous ont attaqués et ont détruit tous nos biens. Certains Camerounais vivant au Nigeria sont également de retour. Delphine Nguino, diplômée de l'université de Maïdougouri, était femme d'affaires à Koukawa, dans l'état de Borno. Je suis une victime et c'est une très mauvaise expérience d'être violée. Cela vous traumatise. Je suis une victime et je ne voudrais pas que ça arrive à quiconque. Le groupe salafiste est accusé d'avoir commis des atrocités également sur le sol camerounais. Mariam Obolingong dit que lorsque les insurgés nigériens ont pris d'assaut le village frontalier d'Ashigashia, il y a un mois, ils ont agressé de nombreux jeunes.
Un organisme terroriste qui vient dans nos villages pour violer les jeunes filles, les prendre en otage et donne de l'argent et des armes aux jeunes garçons pour les recruter. Et ceux qui refusent d'être recrutés, ils les tuent.
Yohun Haman, un homme d'âge moyen, a dit à la VOA que les membres du groupe extrémiste ont enrôlé de force les jeunes.
Souvent, c'est sur l'obligation. Vous savez que Boko Haram vient arrêter les gens par force au quartier pour les amener. Ce n'est pas la volonté des jeunes qu'ils acceptent d'aller dans Boko Haram lutter contre la population.
Entre parenthèses. Une campagne visant à persuader les Rwandais d'utiliser un nouveau type de four amélioré qui demande moins de combustible et dégage moins de fumée a été un échec selon les fabricants. Ils pensent que les gens ne réalisent pas encore que le système est économique et protège leur santé et l'environnement, comme l'explique Nick Long à Kigali dans ce reportage relaté par Lionel Gaïma.
Il existe différents types de foyers améliorés au Rwanda. L'un des plus abordables est un four à charbon en céramique et en métal qu'on appelle Chanamake. Il y a 3 ans, le ministère rwandais des infrastructures a approuvé un nouveau type plus durable de Chanamake et souhaité que 80% des ménages à Kigali adoptent ce système de cuisson. Celui-ci permet d'économiser environ 30% de charbon de bois par rapport au four non amélioré et 11% par rapport à l'ancien modèle Chanamake, selon l'organisation internationale Action Pratique, qui a contribué à sa conception. Mais il coûte près de 7 dollars, alors que l'ancien modèle coûte 2 dollars et quelques. Selon un fabricant de la coopérative AJDR, la production de Chanamake à Kigali est réduite et les ventes sont en baisse parce que le gouvernement a supprimé la subvention. Alain Sanzabaganwa, le trésorier de la coopérative, dit qu'ils ne vendent pas beaucoup de leurs foyers améliorés, qu'ils n'ont pas assez de publicité et qu'ils peinent à vendre en dehors de Kigali. L'année dernière, dit-il, la coopérative a vendu seulement 1600 nouvelles versions de Chanamake. Selon lui, il y a environ 6 points de vente dans la capitale, dont le marché de Kimirongo. Au fin fond du marché se dresse un stand avec quelques piles de fours de cuisson. Lorsque la VOA est arrivée, il n'y avait pas un seul nouveau modèle, mais sur demande du journaliste, les vendeurs sont allés en chercher un. La commerçante Laurence Ouamahoro dit qu'elle en vend environ 5 par mois et 30 de l'ancien modèle. Tout en reconnaissant qu'il est plus économique, elle avoue ne pas en avoir elle-même car, dit-elle, 8 dollars c'est trop cher. Un passant s'est joint à la discussion pour dire que ce four de cuisson est pour les gens riches. Le consultant de Practical Action au Rwanda, Iwan Bloomfield, estime qu'il faut améliorer le marketing de ce produit qui devait être vendu en porte-à-porte. Ma compréhension des types d'approches qui sont les plus efficaces, c'est quand des agents commerciaux sont à mesure d'aller visiter les ménages, de leur expliquer les avantages et en faire la démonstration, puis avoir le feedback d'une femme ou une autre personne ayant autorité dans la communauté et qui pourrait alors démontrer les réels avantages du système de cuisson. Ainsi souligne le spécialiste, il faut que les fabricants mettent l'accent sur les divers aspects de la vente au détail.
Le taux de chômage en Ouganda est de 83%, l'un des plus élevés au monde. Et les plus touchés par ce fléau sont les jeunes. Ainsi, pour réagir, un groupe d'anciens étudiants a décidé de créer l'Association nationale des chômeurs afin d'appeler le gouvernement à la création d'emplois. Le point avec Jacques Aristide.
L'Ouganda n'a aucune raison d'être fier. Le pays affiche l'un des niveaux les plus aigus de chômage sur tout le continent africain. Les plus touchés sont les jeunes, dont les moins de 30 ans forment une bonne partie de la population. Entre donc l'Association nationale des chômeurs, ou l'ANC pour abréger. Elle demande au pouvoir en place d'introduire de vastes réformes pour juguler le fléau du chômage. Leurs revendications sont précises, la création d'un ministère du chômage et de centres pour l'emploi, une représentativité parlementaire, de même que l'égalité des chances pour les candidats à l'emploi. Le groupe n'a pas froid aux yeux. Il demande de faire boycotter les élections de 2016 si le gouvernement n'applique pas le programme des jeunes. Dorine Nianjura, membre de l'ANC.
Nous voulons réunir tous les chômeurs ougandais sous la coupe d'une seule et unique organisation. Nous allons prouver que la majorité opprimée est capable de changer les choses. Nous voulons que le problème du chômage soit résolu une fois pour toutes.
La réplique du ministère ougandais du Travail n'a pas tardé. Ils y planchaient sur une batterie de mesures afin d'étendre les opportunités d'emploi aux jeunes. Des programmes tels que le Fonds Capital Risque pour les jeunes disposent de 9,5 millions de dollars dans le but d'aider les start-up dans le secteur privé. Un autre plan gouvernemental couvre tout le territoire et vise à doter les jeunes de compétences professionnelles et entrepreneuriales. Milton Touriasima, du ministère du Travail.
Le chômage reste un défi pour le gouvernement. L'économie est encore faible. Le marché du travail est toujours très restreint. Près de 400 000 Ougandais viennent sur le marché du travail chaque année, mais pour l'heure, l'économie ne peut qu'employer que 100 000 personnes. Mais le gouvernement prend de nombreuses mesures pour résorber le chômage.
Les autorités misent donc gros sur l'entrepreneuriat, mais demander aux chômeurs de démarrer leur propre entreprise n'est pas réaliste, réagit le groupe des jeunes, qui ajoute que le chômage entraîne d'autres maux tels que la prostitution, le trafic de drogue et le vol. Des problèmes sociaux dont il faut aussi tenir compte, affirme l'Association nationale des chômeurs. L'ANC maintient qu'elle va continuer à marteler ses revendications pour le plein emploi. Le gouvernement affirme être à l'écoute, mais les demandes, conclut-il, doivent être à la fois raisonnables et réalisables. Let's go.
excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you do.
Et c'est ainsi que se referme le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes.